Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèle à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi du commentaire aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Union européenne soutient la promotion touristique de l'Indonésie. L'Union européenne organise un festival de destination européenne à Jakarta. Le Parlement participera à la réunion ASEP en Mongolie. L'Indonésie encourage l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Le ministre de la Communication et la Technologie de l'Information, M. Rudiantara, souhaite la France investisse dans l'économie numérique. Et enfin, 10 destinations touristiques sont promues en Corée du Sud. Voici le journal complet. L'Union européenne s'est engagée à soutenir les efforts de l'Indonésie pour accroître le nombre de la visite de touristes internationaux dans le pays. Cela a été transmis par l'ambassadeur de l'Union européenne à l'Indonésie, Vincent Guérin, après avoir assisté à une déclaration commune de la mise en œuvre de l'exposition des destinations européennes mercredi à Jakarta. Jusqu'à présent, environ 1 million de personnes en Europe font la visite touristique à l'Indonésie chaque année. Selon l'ambassadeur Vincent Guérin, le chiffre peut être augmenté. En outre, selon lui, l'Union européenne soutient également le développement des infrastructures en Indonésie pour faire devenir l'Indonésie comme l'un des pays destinataires touristiques plus attrayants.
My understanding is that there are currently 1 million roughly European tourists visiting Indonesia every year.
Selon ma compréhension, au moins il y a 1 million de personnes européennes qui ont volé et visité l'Indonésie au cours d'un an, de 10 millions de personnes européennes voyageant hors de l'Europe. Ce chiffre est assez bon et certainement peut être augmenté. Nous soutenons également tous les efforts du gouvernement indonésien pour améliorer les infrastructures pour rendre l'Indonésie comme une destination touristique plus attrayante. Par ailleurs, l'ambassadeur Vincent Guérin a expliqué que le soutien au développement des infrastructures en Indonésie est également fait en développant des destinations touristiques en Indonésie. Ceci est fait pour créer l'égalité du développement dans le pays pour soutenir le secteur du tourisme. En outre, selon lui, l'Union européenne soutient également les efforts du ministère indonésien du tourisme dans la promotion de l'Indonésie comme l'une des destinations touristiques du monde. L'Union européenne tiendra une exposition touristique en Indonésie du 9 au 10 avril 2016 à Jakarta. L'ambassadeur de l'Union européenne à l'Indonésie, Vincent Guérin, dans un communiqué de presse mercredi à Jakarta, espère le festival de destination européenne peut être une opportunité pour le peuple indonésien à connaître plus sur l'Europe. Dans cette exposition, les pays de l'Union européenne veulent aussi montrer la richesse au secteur du tourisme.
The goal of the European Union and the goal of all the countries represented here and participating was to present in a different way Europe. We want to do this in a more comprehensive way by combining the usual
Le but de l'exposition est de montrer à l'Europe sous une forme différente. Nous voulons montrer une manière plus globale en combinant la présentation des destinations touristiques et d'ajouter des questions spécifiques relatives à l'Europe qui est riche en culture. Les visiteurs à Bali-Kartini peuvent profiter de la richesse culturelle et les destinations touristiques d'Europe. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Guérin, a déclaré que 22 États membres de l'Union européenne et 3 autres pays européens participeront à l'exposition en fournissant des informations complètes sur les différentes destinations touristiques en Europe. Il a également espéré que ce festival peut augmenter le nombre de touristes indonésiens visite en Europe qui atteint 360 000 visites en 2015. Le Parlement indonésien enverra une délégation pour assister à la conférence des organisations parlementaires régionales Asie-Europe ou ASEP à Ulaanbaatar en Mongolie du 21 au 23 avril 2016. C'est ce qu'a affirmé le président du Parlement Ade Komarudin dans un discours à la séance plénière d'ouverture de la quatrième période de la session 2015-2016 au Parlement Jakarta mercredi. Selon lui, la réunion de la CEP à Ulaanbaatar vise à harmoniser l'ordre du jour parlementaire des pays d'Asie et d'Europe. Il a ajouté, cette réunion produira également la déclaration de la 9e réunion du partenariat parlementaire Asie-Europe qui pourrait plus resserrer la coopération entre les pays d'Asie et d'Europe dans l'avenir. La délégation du Parlement indonésien participera également au comité parlementaire asiatique de l'Assemblée permanente pour la réunion des affaires sociales et culturelles à Téhéran, en Iran, les 26 et 27 avril 2016. La session de l'Assemblée parlementaire asiatique discutera l'ordre du jour des questions sociales et culturelles en Asie dans la perspective du Parlement. L'Indonésie encourage la mise en œuvre des instruments de la loi spatiale internationale pour l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Le chef de la délégation indonésienne, l'ambassadeur Ahmad Budiman, dans le point de vue général de l'Indonésie à la 55e session du sous-comité juridique du Comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, LST, Unkopuos à Vienne, en Autriche, a affirmé que l'utilisation de l'espace devrait être empêchée de la course aux armements et d'autres bouts agressifs. Le ministre conseiller de l'ambassade indonésienne, en tant que le représentant permanent de l'Indonésie à Vienne, Dodi Kusumonegoro à Antara de Londres, mercredi, a déclaré qu'à cette réunion, la délégation indonésienne a été dirigée par l'ambassadeur Ahmad Budiman, se composant de hauts fonctionnaires de l'Institut Aérospatial National, LAPAN, du ministère de la Communication et la Technologie de l'Information, du ministère indonésien des Transports, du quartier général de l'armée aérienne indonésienne et ceux de l'ambassade et du représentant permanent d'Indonésie à Vienne. L'Indonésie, le groupe de G77 et la Chine ont encouragé tous les pays, en particulier ceux qui ont des progrès dans le domaine spatial, à collaborer pour empêcher une course aux armements ou encourager la non-militarisation à l'espace afin d'assurer l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Le ministre de la Communication et de la Technologie de l'Information, M. Rudiantara, souhaite les investisseurs de l'économie numérique en France puissent investir en Indonésie. Cela a été déclaré par le ministre Rudiantara quand il a rencontré le ministre du Commerce extérieur de la France, Mathias Fek, mercredi à Jakarta. L'Indonésie est prête à établir des coopérations commerciales et aussi la coopération dans le domaine de l'économie numérique. L'Indonésie espère que la France peut exporter la technologie à l'Indonésie. À cette occasion, les deux ministres ont assisté à la signature d'une collaboration entre une banque du gouvernement indonésien et la banque online Pajak, fondée par l'expatrié de la France, Charles Guinot. La coopération est faite pour le rendre plus facile pour les contribuables de calculer, déclarer et payer la taxe en utilisant l'application online Pajak. Le ministère indonésien du tourisme a promu 10 destinations touristiques indonésiennes via le programme Merveilleux Indonésie à la société sud-coréenne du lac Toba jusqu'à l'île de Morotai au Molouk Nord. Selon les informations de l'ambassade indonésienne à Séoul, a reçu à Jakarta mercredi, les 10 destinations touristiques de l'Indonésie qui ont promu sont entre autres le lac Toba nord de Sumatra, Tanjung Klayang de Bangka Belitung, Tanjung Lesung de Banten et les Mille Îles, Pulau Seribu, Jakarta, le Temple Borobudur, le Mont Bromo et Semeru, Java Est, la plage Mandalika, Nusa Tenggara Ouest, Wakatobi de Sulawesi du Sud-Est, la Labuan Bajo de Nusa Tenggara Est et l'île Merauke des Moluques du Nord. 10 zones touristiques se composent en 3 sous-sections, à savoir le tourisme de golf, le tourisme croisière et le tourisme de plongée. Jusqu'à présent, Bali est bien connu par le public sud-coréen. Le ministère du Tourisme a préparé le Beyond Bali parce que l'Indonésie a une énorme essence de voyage, la nature et la culture qui peut être promue. Le gouvernement vise à augmenter le nombre de touristes coréens, plus de 400 000 personnes en 2016. Ce nombre a augmenté de 11% de l'objectif de l'année dernière de 360 000 touristes. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Cinquième longtemps, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, le dilemme des politiques pour maintenir la richesse marine. La journée indonésienne des pêcheurs qui tombe le 6 avril a été marquée non seulement par un sentiment de joie, mais aussi un sentiment de déception par les gens dans le secteur maritime indonésien. D'une part, certaines politiques pour maintenir l'économie maritime qui ont été émises par le ministère de la mer et de la pêche apportent des effets positifs. D'autre part, elles provoquent aussi la controverse pour les pêcheurs et les entrepreneurs de la pêche indonésienne. Les politiques du ministère de la Marine et de la Pêche de s'enfoncer quelques navires étrangers qui ont capturé illégalement des poissons dans la zone économique de l'Indonésie sont évaluées positives, comme on le voit à partir de la réduction de la pêche illégale ou de vol de poissons dans les eaux indonésiennes. Mais d'autres politiques complémentaires qui interdisent l'utilisation d'engins de pêche appelés filets chantrang et l'interdiction sur la circulation des marchandises et des produits de la mer au milieu de la mer ont des manifestations provoquées et fait quelques pêcheurs cessent d'aller à la mer. À cet égard, la ministre de la Marine et de la Pêche, Susi Pujastuti, dit que ces politiques prises pour sauvegarder les ressources naturelles marines qui avaient été volées par des parties étrangères. En outre, les politiques visent également à inviter les pêcheurs nationaux à capturer les poissons avec la façon respectueuse de l'environnement. Pendant ce temps, un membre du Parlement indonésien de la Commission 4, Rofi Munawar, a déclaré dans un communiqué de presse à Jakarta mercredi que certaines politiques du ministère de la Mer et de la Pêche manquent de solutions alternatives. Selon lui, ces politiques ne prêtent pas attention au processus de transition et d'adaptation à la situation de chaque région. Le gouvernement ne fournit pas suffisamment d'aide pour les pêcheurs qui ont des difficultés à mettre en œuvre l'application des règlements existants. Cependant, le président de l'Association de transport maritime et de la pêche de l'Indonésie, Tribuana, dit à cause d'un moratoire sur la politique maritime, les industries de la pêche nationaux, tels que les entrepreneurs nationaux de la pêche et les pêcheurs sont presque faillites, parce que tout est interconnecté. Tandis que le président de l'Association des pêcheurs de l'Indonésie pour Pekalongan, Raj Jowibowo, a estimé que les politiques de la ministre Susi Pujastuti étaient raisonnables et acceptables pour l'avenir des pêcheurs eux-mêmes. Cependant, il a demandé plus de temps parce que les pêcheurs ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour acheter des équipements qui sont interdits parce qu'il a été acheté avant que ces directives soient émises. Pendant ce temps, selon le chef de la station de surveillance des ressources maritimes et de la pêche pour Tual au Molouk, Mukhtar, depuis la publication des politiques ministérielles, les navires de pêche illégaux maintenant presque disparaissent des eaux Aru et Arafuru. Maintenant, ces navires illégaux ont peur d'entrer dans les eaux indonésiennes en raison de la peur de couler leurs navires. En conséquence, les pêcheurs traditionnels sont maintenant beaucoup en mesure de profiter de leurs captures. Les politiques adoptées par le ministère de la Marine et de la Pêche ont pour but de maintenir et de sauvegarder la souveraineté des régions maritimes indonésiennes. Ils ont également l'un des programmes de gouvernement du président Joko Widodo qui annonce l'Indonésie comme axe maritime. Cela signifie que l'Indonésie doit restaurer sa gloire maritime ainsi que toutes les richesses marines qui peuvent être profitées économiquement par la nation indonésienne aussi bonne que possible. Salutaire, c'est le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie, de l'édition 7 avril. Nous allons commencer le 7 avril 1966, une bombe hydrogène retrouvée en Méditerranée. Au terme de 80 jours de recherche active, la bombe thermonucléaire perdue par l'Américain Air Force le 17 janvier au large de l'Espagne est retrouvée à 840 mètres de fond. Elle est intacte et selon les autorités américaines, aucune pollution sous-marine n'est pas à craindre. On change le 7 avril 1947, le parti Ba'ath a été fondé à Dama, la Syrie. Le parti Ba'ath est le parti qui se compose de plusieurs partis politiques représentant le mouvement de Ba'ath. Au début, le parti Ba'ath sert un parti pan-arabe avec des branches dans plusieurs pays arabes. En 1866, ce parti a été divisé, une branche basée en Syrie et un en Irak. Les deux partis Ba'ath ont une structure parallèle dans le monde arabe. Il a commencé à tenir le pouvoir en Syrie le 8 mars 1963 et restera en vigueur jusqu'à présent. Parti Ba'ath détient le pouvoir en Irak depuis février 1968 jusqu'en 2003, après l'éviction de facto de leader de Ba'ath Saddam Hussein dans la guerre en Irak en 2003. Le nouveau gouvernement irakien a interdit le parti Ba'ath en juin 2003. En arabe, le Ba'ath signifie la Renaissance. La confiance ba'athiste est une combinaison de socialisme arabe, le militarisme, le nationalisme et pan-arabe. L'idéologie séculière suivant un conflit avec d'autres gouvernements arabes au Moyen-Orient, qui tend à soutenir l'islamisme et la théocratie. Entre 1947 et 1948, l'Organisation mondiale de la santé a été créée par les Nations unies. L'Organisation mondiale de la santé est l'une des agences de l'ONU existe en tant que coordinateur de la santé publique internationale et basée à Genève, en Suisse. Avec les membres de près de 200 pays, cette organisation a fait des programmes d'envergure mondiale pour prévenir et éliminer les maladies. Le jour de la naissance de l'OMS a également déclaré que la journée de la santé internationale. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui, l'édition 7 avril. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Préparer les étudiants ou les jeunes d'avoir un avantage concurrentiel après avoir terminé le collège ». Les jeunes et les étudiants dans la communauté économique de l'ASEAN ont obtenu l'attention du ministre indonésien du Travail, M. Hanif Dahiri. Dans son discours au séminaire national du campus de la Naipura Jambi le lundi, le ministre Dahiri a encouragé les étudiants à devenir l'excellence personnelle et avoir un avantage concurrentiel afin qu'après avoir été diplômés, ils peuvent se rivaliser dans la société. Le thème du séminaire est créer des étudiants qualifiés et compétitivité pour faire face aux défis à l'ère de la communauté économique de l'ASEAN. Selon le ministre Dahiri, pour être compétitif, l'étudiant doit avoir la qualité, le caractère, l'innovation et la créativité afin de faciliter l'entrée sur le marché du travail. La communauté économique de l'ASEAN, comme le processus, continue d'accélérer. Cette situation montre que les relations entre la force des nations de l'ASEAN seront colorées par l'économie, sociale, politique, juridique et la science et aussi de la technologie d'un pays. Les grands défis indonésiens pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN est également reconnu par le président de l'Association indonésienne des jeunes entrepreneurs ou HIPMI, M. Bahlil Lahadalia. Lors de sa rencontre avec le ministre de la Jeunesse et le Sport, M. Imam Nahrawi, à Jakarta mercredi, Bahlil a informé les résultats d'un sondage auprès des étudiants en Indonésie. 80% des étudiants ont tendance à exprimer qu'ils veulent devenir les fonctionnaires ou bien les travailleurs que d'être les entrepreneurs. En fait, pour être en mesure de rivaliser avec les pays voisins, il est nécessaire au moins 1,7 million de jeunes à devenir les entrepreneurs. Selon Bahlil, cette condition est urgente de la communauté économique de l'ASEAN pour l'Indonésie. Concernant cette condition, le ministre de la Jeunesse et du Sport et aussi HIPMI ont convenu qu'il faut avoir des grands changements de politique pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN, entre autres de publier le règlement qui donne la facilité chez les jeunes ou la société à participer au monde d'affaires. Cependant, HIPMI se sont engagés à créer des jeunes entrepreneurs indonésiens. Par conséquent, dans un approche à venir, HIPMI organisera jamborée des étudiants de l'ASEAN en utilisant le moment de la Journée nationale de l'éveil. La journée se tiendra du 19 au 23 mai à l'Université de Telkom, Bandung, Jawa West. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'Union européenne s'est engagée à soutenir les efforts de l'Indonésie pour accroître le nombre de visites de touristes internationaux dans le pays. Cela a été transmis par l'ambassadeur de l'Union européenne à l'Indonésie, Vincent Guérin, après avoir assisté à une déclaration commune de la mise en œuvre de l'exposition des destinations européennes mercredi à Jakarta. Jusqu'à présent, environ 1 million de personnes en Europe font la visite touristique à l'Indonésie chaque année. Selon l'ambassadeur Vincent Guérin, le chiffre peut être augmenté. En outre, selon lui, l'Union européenne soutient également le développement des infrastructures en Indonésie pour faire devenir l'Indonésie comme l'un des pays destinataires touristiques plus attrayants.
My understanding is that there are currently 1 million, roughly, European tourists visiting Indonesia every year.
Selon ma compréhension, au moins il y a 1 million de personnes européennes qui ont volé et visité l'Indonésie au cours d'un an, de 10 millions de personnes européennes voyageant hors de l'Europe. Ce chiffre est assez bon et certainement peut être augmenté. Nous soutenons également tous les efforts du gouvernement indonésien pour améliorer les infrastructures pour rendre l'Indonésie comme une destination touristique plus attrayante. Par ailleurs, l'ambassadeur Vincent Gurang a expliqué que le soutien au développement des infrastructures en Indonésie est également fait en développant des destinations touristiques en Indonésie. Ceci est fait pour créer l'égalité du développement dans le pays pour soutenir le secteur du tourisme. En outre, selon lui, l'Union européenne soutient également les efforts du ministère indonésien du tourisme dans la promotion de l'Indonésie comme l'une des destinations touristiques du monde. L'Union européenne tiendra une exposition touristique en Indonésie du 9 au 10 avril 2016 à Jakarta. L'ambassadeur de l'Union européenne à l'Indonésie, Vincent Gurang, dans un communiqué de presse mercredi à Jakarta, espère le festival de destination européenne peut être une opportunité pour le peuple indonésien à connaître plus sur l'Europe. Dans cette exposition, les pays de l'Union européenne veulent aussi montrer la richesse au secteur du tourisme.
The goal of the European Union and the goal of all the countries represented here and participating was to present in a different way Europe. We want to do this in a more comprehensive way by combining the usual presentation.
Le but de l'exposition est de montrer à l'Europe sous une forme différente. Nous voulons montrer une manière plus globale en combinant la présentation des destinations touristiques et d'ajouter des questions spécifiques relatives à l'Europe qui est riche en culture. Les visiteurs à Bali Kartini peuvent profiter de la richesse culturelle et les destinations touristiques d'Europe. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Gurang, a déclaré que 22 États membres de l'Union européenne et 3 autres pays européens participeront à l'exposition en fournissant des informations complètes sur les différentes destinations touristiques en Europe. Il a également espéré que ce festival peut augmenter le nombre de touristes indonésiens visites en Europe qui atteint 360 000 visites en 2015. Le Parlement indonésien enverra une délégation pour assister à la conférence des organisations parlementaires régionales Asie-Europe, ou ASEP, à Ulaanbaatar, en Mongolie, du 21 au 23 avril 2016. C'est ce qu'a affirmé le président du Parlement, Ade Komarudin, dans un discours à la séance plénière d'ouverture du 4e période de la session 2015-2016 au Parlement Jakarta, mercredi. Selon lui, la réunion de la CEP à Ulaanbaatar vise à harmoniser l'ordre du jour parlementaire des pays d'Asie et d'Europe. Il a ajouté, cette réunion produira également la déclaration de la 9e réunion du partenariat parlementaire Asie-Europe qui pourrait plus resserrer la coopération entre les pays d'Asie et d'Europe dans l'avenir. La délégation du Parlement indonésien participera également au comité parlementaire asiatique de l'Assemblée permanente pour la réunion des affaires sociales et culturelles à Téhéran, en Iran, les 26 et 27 avril 2016. La session de l'Assemblée parlementaire asiatique discutera l'ordre du jour des questions sociales et culturelles en Asie dans la perspective du Parlement. L'Indonésie encourage la mise en œuvre des instruments de la loi spatiale internationale pour l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Le chef de la délégation indonésienne, l'ambassadeur Rahmat Budiman, dans le point de vue général de l'Indonésie à la 55e session du sous-comité juridique du Comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, LST, Unkopuos à Vienne, en Autriche, a affirmé que l'utilisation de l'espace devrait être empêchée de la course aux armements et d'autres bouts agressifs. Le ministre conseiller de l'ambassade indonésienne, en tant que le représentant permanent de l'Indonésie à Vienne, Dodi Kusumo-Nogoro à Antara de Londres mercredi a déclaré qu'à cette réunion, la délégation indonésienne a été dirigée par l'ambassadeur Rahmat Budiman, se composant de hauts fonctionnaires de l'Institut Aérospatial National, LAPAN, du ministère de la Communication et la Technologie de l'Information, du ministère indonésien des Transports, du quartier général de l'armée aérienne indonésienne et ceux de l'ambassade et du représentant permanent d'Indonésie à Vienne. L'Indonésie, le groupe de G77 et la Chine ont encouragé tous les pays, en particulier ceux qui ont des progrès dans le domaine spatial, à collaborer pour empêcher une course aux armements ou encourager la non-militarisation à l'espace afin d'assurer l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Le ministre de la Communication et de la Technologie de l'Information, M. Rudiantara, souhaite les investisseurs de l'économie numérique en France puissent investir en Indonésie. Cela a été déclaré par le ministre Rudiantara quand il a rencontré le ministre du Commerce extérieur de la France, Mathias Freck, mercredi à Jakarta. L'Indonésie est prête à établir des coopérations commerciales et aussi la coopération dans le domaine de l'économie numérique. L'Indonésie espère la France peut exporter la technologie à l'Indonésie. À cette occasion, les deux ministres ont assisté à la signature d'une collaboration entre une banque du gouvernement indonésien et la banque online Pajak, fondée par l'expatrié de la France, Charles Guinot. La coopération est faite pour le rendre plus facile pour les contribuables de calculer, déclarer et payer la taxe en utilisant l'application online Pajak. Le ministère indonésien du tourisme a promu 10 destinations touristiques indonésiennes via le programme Merveilleux Indonésie à la société sud-coréenne du lac Toba jusqu'à l'île de Morotai au Molouk Nord. Selon les informations de l'ambassade indonésie à Séoul, a reçu à Jakarta mercredi, les 10 destinations touristiques de l'Indonésie qui ont promu sont entre autres le lac Toba nord de Sumatra, Tanjung Klayang de Bangka Belitung, Tanjung Lesung de Banten et les Mille Îles, Pulau Seribu, Jakarta, le Temple Borobudur, le Mont Bromo et Semeru, Java Est, la plage Mandalika, Nusa Tenggara Ouest, Wakatobi de Sulawesi du Sud-Est, Labuan Bajo de Nusa Tenggara Est et l'île Morotai des Moluques du Nord. 10 zones touristiques se composent en 3 sous-sections, à savoir le tourisme de golf, le tourisme croisière et le tourisme de plongée. Jusqu'à présent, Bali est bien connu par le public sud-coréen. Le ministère du Tourisme a préparé le Beyond Bali parce que l'Indonésie a une énorme richesse de voyage, la nature et la culture qui peut être promue. Le gouvernement vise à augmenter le nombre de touristes coréens, plus de 400 000 personnes en 2016. Ce nombre a augmenté de 11% de l'objectif de l'année dernière de 360 000 touristes. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours des phrases qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par la variété indonésienne.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons présenter le poisson fumé typique des Moluques. Ambon, la ville dans la province des Moluques, est très populaire parmi les touristes. située sur une colline avec vue sur la baie. Et cette ville présente une variété de destinations, la nature, l'histoire et la nourriture. Ambon a des plages de sable blanc et ses eaux cristallines, telles que la plage de Natsepa, la plage de Liang et la plage de Pintu Kota. N'oubliez pas de déguster une variété de plats typiques. Papeda étant servi avec la soupe de poisson jaune et le plat quotidien des habitants locaux, qui est également favorisé par de nombreux touristes. Il y a aussi du poisson frais fumé qui est mangé avec le sambal cholo cholo, c'est une pâte de piment. Dans cette édition, nous allons vous introduire l'un des plats typiques d'Ambon, c'est le poisson fumé, et aussi connu sous le nom de poisson asar. La matière première de ce plat est le poisson, notamment le thon, la bonite et le thon. Généralement, la bonite et le thon fraîchement pêchés sont fumés directement. Le processus de la fabrication est assez facile. Tout d'abord, le poisson a été divisé en deux afin de garantir la maturité. Et ensuite, les entrailles de poisson sont rejetées et nettoyées, la viande avec le jus de citron pour ne pas louche. En outre, les poissons ont été percés de bambou et bien organisés sur le grill. La fumigation est faite avec du charbon pendant environ 3 heures et peut durer jusqu'à 5 jours après la fumigation. En fait, ce plat peut être stocké pendant 5 jours dans le réfrigérateur. Le poisson asar possède un arôme distinctif et le goût délicieux, surtout parce qu'il a été brûlé sur le bois. D'habitude, il est mangé avec le sambal cholo cholo. Le sambal cholo cholo est composé des épices comme l'ail, le poivre de Cayenne, les tomates, l'orange chinois et les feuilles de céleri qui sont trachées et mélangées. Et ensuite, ajouter la sauce de soja. Le goût du sambal cholo cholo est unique. Le mélange entre l'épice et le goût de jus de citron vert, mais tout à fait savoureux. Le poisson fumé et le sambal cholo cholo seront plus délicieux lorsqu'ils sont consommés avec du riz chaud. Dans la ville d'Ambon, il n'est pas difficile de trouver des aliments préférés de la population locale. Vous pouvez vous promener dans le quartier Galala, la ville d'Ambon. Là-bas, vous pouvez voir les restaurants de poissons fumés de différentes tailles et typiques. Le prix de poissons fumés est varié, de 30 000 rupiah jusqu'à 40 000 rupiah par tête. Outre de vendre les poissons fumés, les marchands vendent également le sambal cholo cholo. Si vous l'achetez pour le souvenir, les commerçants vont préparer spécialement des paquets de souvenirs. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Couleur, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis La Voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Voici le magazine de couleurs indonésienne, édition de jeudi. Dans cette édition, nous vous invitons à connaître les jours de santé du monde. Cette journée mondiale de la santé est célébrée chaque année au 7 avril et soutenue par l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez, en 1948, cette organisation de la mondiale a tenu la première Assemblée mondiale de la santé. Cette assemblée a décidé plus tard de célébrer de la Journée mondiale de la santé le 7 avril chaque année à partir de 1950. Cette Journée mondiale de la santé est tenue pour commémorer la fondation de cette organisation. Ceci est considéré comme attirer l'attention du monde à être au courant des enjeux majeurs de santé mondiale chaque année. Pour cela, l'OMS a organisé un événement au niveau international, régional et local, un séjour en fonction de la journée thématique. La journée de la santé est aussi reconnue par diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales ont intérêt pour les questions de santé publique. Chers fidèles amis, avec les membres effectifs de presque 200 pays dans le monde, cette agence fait l'exécution des programmes mondiaux pour prévenir et éliminer les maladies. Mais la mission de l'OMS va au-delà du simple traitement de la maladie physique. Cette année, le thème est « Battre comme le diabète ». Le représentant de l'OMS au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, Sahad Adhikari, a expliqué. À ce moment, le diabète sucre est une maladie chronique avec des charges élevées. Le diabète est même appelé l'épidémie mondiale qui a frappé le pays à revenus faibles et moyens. Le diabète se produit non seulement dans le secteur de la santé, mais aussi le secteur socio et économique. Alors, en commémoration de la Journée mondiale de la santé 2016, le thème est le diabète pour améliorer la prévention, le traitement et contre le diabète. La campagne de diabète a trois objectifs. La campagne de diabète a trois objectifs principaux. Premièrement, améliorer la sensibilisation du public sur le danger et l'augmentation des cas de diabète. Surtout les gens qui viennent du pays à revenus faibles ou intermédiaires, où la charge est supérieure à celle des pays à revenus élevés. Deuxièmement, le principe de l'OMS, améliorer l'accès à la gestion du diabète spécifiquement efficace et supportable. Les pays abordables de l'OMS sont censés collecter de multiplier les efforts pour la prévention, le diagnostic précoce et la gestion de patients atteints de diabète. Troisièmement, la communauté se rend compte que la charge de la vie économique, sociale et de la santé en raison du diabète est énorme. À cette question, l'OMS va lancer le rapport mondial sur le diabète pour la première fois cette année. Par conséquent, la diffusion des informations relatives aux facteurs de risque de diabète devient très importante, en particulier sur le mode de vie sont de plus en plus malsains. Cette campagne cela devrait rendre les gens conscients que le diabète est une maladie grave, mais peut être évité avec le mode de vie sain. Chers fidèles amis, c'était les informations sur le thème de la Journée mondiale de diabète. Nous vous remercions de votre attention et fidélité à la prochaine édition de Couleur indonésienne. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant au divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui vont vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, salutateurs de la voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la voix d'Indonésie. Voici le programme musical qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, je vous présente une chanteuse de pop nommée Titi Sandora. Bon, salut tard, voici Titi Sandora avec sa chanson intitulée Rose. Bonne écoute. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Titi Sandora intitulée Rose. Titi Sandora a le nom complet Titi Umiati, qui est née à Bentar, Bumi Ayu, Java Central, le 20 janvier 1954. Elle a commencé sa carrière dans les années 60 dans le monde de chant. Sa premier album, intitulé Sibonchel, arrangé par le groupe Zainal Combo, un groupe musical dirigé par le défunt Zainal Arifin. Ses lyriques drôles dans l'album sont jouées presque tous les jours sur les radios, y compris les radios privées. Outre Sibonchel, il y avait aussi des chansons comme Fujiyama, Sissiti est devenue la mariée, ainsi que l'ami d'école. La popularité de Titi continuait jusqu'à ce qu'elle est adolescente. Sedutant, écoutons donc maintenant la chanson de Titi Sandora intitulée Marantau ou Vagang Bone. Bonne écoute. Amis, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec Titi Sandora. Le succès des chansons chantées par Titi Sandora confirme l'unicité de l'identité de la voix d'une Titi Sandora avec la vibration par rapport à d'autres chanteurs à cette époque. Le pic de la carrière de Titi Sandora était atteint quand elle était en duo avec Mohsin Alatas, en collaboration avec lui, qui plus tard est devenu son mari. Titi a publié quelques hits, entre autres « Halo Sayang »,« Dunia Belum Kiamat »,« Hatiku Hatimu »,« Pertemuan Adam dan Hawa » et « Jangan Marah ». À ce moment-là, la popularité d'une chanson est soutenue seulement par les radios. Toutefois, les chansons de Titi Mohsin étaient très populaires dans le public dans les années 1970. Avec Mohsin, Titi a eu beaucoup de succès en tant que partenaire de duo qui est le plus romantique. L'époque d'or de Titi Sandora a déjà passé, mais ses chansons sont toujours populaires et ne meurent jamais. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Titi Sandora intitulées Dunia Belum Kiamat. Bonne écoute et au revoir.
Pikir-pikir sampai tua, diri miskin siapa yang mau?
Sabarlah sabar, tunggu dulu, belum tentu orang tak mau.
Sudah kupikir sama saja, jauh tinggi bulan dan
Chers amis, on a des différentes lésures, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez de quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la voix d'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia. Service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés Au revoir.